Rose, Mine et maman connaissent très bien leur âge. Elles ont le même et n'en parlent jamais. Elles s'embrassent tendrement lorsqu'elles se retrouvent. Rose demande à maman des nouvelles de Jean et de Michou. Maman à Rose des nouvelles de Castor, chat. Puis maman s'installe sur son divan à elle, dans le recoin le plus obscur de la noire boutique, et Rose lui montre ses dernières acquisitions. Si c'est un collier, maman se le fait attacher au cou, une bague la glisse à son doigt, un tissu de prix le jette sur ses genoux ou s'en enveloppe et garde le collier, la bague, la couverture improvisée tout le temps que dure la visite. De quoi parlerait-elle? Le présent est ce qu'il est, le passé, elles en ont fait plus d'une fois le tour. L'avenir, Rose volontiers raconterait des histoires sur celui-là ou celle-ci, mais maman n'aime pas les commérages, sauf s'il y a une morale à en tirer. Sa conception de la morale est singulière. La convention bourgeoise y retrouverait son bien, de même sans doute que l'anarchiste le plus exalté. Les femmes sont des garces et les hommes des idiots qui les accusent de tous les crimes, sauf précisément d'être ce qu'elles sont. Les hommes, dit-elle, n'entendent rien aux femmes. Seule une femme les sait pire que tout ce que l'homme imagine. Si la femme d'un brutal ou d'un volage lui reste, c'est une gourde. Et il ne faut pas compter sur maman pour la plaindre. Mais qu'elle quitte son mari, maman donnera tort à la révoltée, parce qu'elle n'a jamais elle-même quitté Georges. Le soir qui suivit l'enterrement de Georges, maman comprit que jusqu'alors, elle avait existé sans plus. Mariée trop tard, la quarantaine passée, elle est redevenue libre trop tard aussi, à 64 ans. Michou n'était pas encore né. Elle ne pense pas qu'elle soit vraiment vieille, mais elle a perdu beaucoup de temps. Les vieux ne mesurent pas le temps comme les jeunes. Les jours ont bien plus d'importance pour eux que ce qui s'y passe. Les 30 ans de vie que Georges a pris à maman, ce n'était pas 30 fois 365 jours, mais des battements de cœur, des battements de sang, des rêves, des désirs, des forces qu'elle ne retrouvera plus. Les 30 années du milieu de la vie, qui comptent double ou triple ou 100 fois plus que toutes les autres années, vivrait-on centenaire? Les jeunes s'ennuient de vivre, pense-t-elle parfois. Ils vont et viennent, ils courent, pressés par on ne sait quoi, et tout à coup, ils n'ont plus rien à faire, sinon penser à la jouissance qu'ils ne connaissent pas encore, ou au travail du lendemain. Ils sont trop riches pour ne pas dilapider leur fortune dans des gestes sans portée, des actions mal mûries. Une vie, voyez-vous, sans grandeur. Si Georges, au lieu d'être fonctionnaire, avait été soldat, explorateur, artiste, il n'eût pas mangé le temps ainsi, le sien et le mien, et j'aurais peut-être connu alors une existence qui me vaille, ou peut-être alors valu ma vie. Pourtant, elle ne regrette rien. Elle s'est vengée, somme toute, jour après jour, vengée de son mari d'abord, en ne vivant que pour son fils, et depuis que Georges est mort et que Jean est un homme, vengé de ses humiliations d'épouse, en savourant celles que Jean inflige aux femmes, puisque la femme, elle en est un exemple, n'a pas assez de courage ou de force pour échapper à la maîtrise de l'homme. Chaque fois que Jean tombe une femme, elle apprenait à parler son langage pour se porter à la hauteur de son mépris. N'est-ce pas la preuve qu'elle ne doit pas rougir de l'esclavage où Georges l'a maintenue pendant les 30 meilleures années de son existence? la preuve que les autres ne valent pas mieux qu'elle, mais moins encore, puisqu'elle ne s'est pas laissée prendre, elle, comme tant d'autres, à des aventures sans lendemain. Et c'est réconfortant lorsqu'on y pense, car elle ne dit pas le quart de ce qu'elle pourrait dire des femmes, de leur méchanceté, de leur bêtise, de leur impuissance à vivre longtemps au niveau de l'homme, de cette envie démesurée qui tôt ou tard les dupe et les rend si hargneuses qu'on ne peut les prendre en pitié. Maman s'effraie souvent de son intelligence, de sa force, de sa maîtrise sur soi. Elle ne dit que ce qu'elle veut dire. Elle ne parle que pour apprendre. Ce dont elle est sûre, elle le tait. Mais Rose, qui n'a pas l'esprit qu'il faut pour tirer une morale de tout, admire que maman le puisse. Elle admire toujours maman, et tout en elle, même son silence, quand, écrasée d'ennui, dodelinant la tête et les mains sur son sac, tout à coup sans sommeil, couverte des bijoux empruntés pour une heure. 12 pilotes d'essai en France, depuis la Libération, ont laissé leur vie dans un vol. Personne ne pense qu'ils soient à plaindre. Mais on le pense, j'en le pense, de tous les autres, qui n'ont pas su tenir le coup, qui ont triché ou fui. Héros hier, aujourd'hui, conducteurs d'autobus sur une ligne d'Air France, qui ont continuellement des comptes à rendre à quelques officiels pointilleux et polytechniciens. Jean sait ce que c'est, il y a passé. Il y a passé 2 ans de sa vie. Ce n'aurait pu être 2 mois de plus. Il aurait préféré aller se faire casser la gueule en Indochine. Il était en vérité tout prêt à reprendre du galon et à se bigorner contre les Viettes lorsqu'il a retrouvé Rozanov et son destin en a été changé. Mais les anciens bons, les pauvres types, c'est plus fort qu'eux. On les voit revenir un soir chez mes mères, à Chaville ou sur la route de Melun, à l'attaque du courrier de Lyon. Il propose de prendre un godet, comme il demanderait une faveur. Ils ne veulent point te regagner leur chez eux et de retrouver Bobonne, qu'oublier ce qu'ils sont devenus. Ils ont toujours la même façon d'en venir aux faits. Après d'humiliants détours, humiliants pour eux, comment va la famille ? Jean leur demande des nouvelles de Bobonne. Mais il ne leur parle pas de leur omnibus afin de ne pas les blesser et il se garde bien de lui parler de son piège. Ils ne tiennent pas à nourrir le cafard pendant 2 ou 3 jours. Ils ne tiennent plus à rien. C'est le passé qui les tient. Mais ils sont rares ceux qui osent venir voir Jean à son bureau. Il faut un type comme Michel Galard, un type bien jusqu'en 1940, mais pas plus loin. L'âge de Jean à peu près de 6 mois plus vieux. Ils étaient jadis tous deux au 34e d'aviation et Jean, alors, faisait confiance au garçon un peu lourd, l'âme d'un fonctionnaire déjà, mais capable dans les coups durs de foncer tête baissée comme un buffle. Et d'en faire plus que n'importe qui. Que me veut-il ? Pense Jean, en le recevant dans son bureau, qui ouvre directement sur le bureau de piste, dont un immense tableau noir constitue le meuble principal, toute une cloison, la liste, minute par minute, tenue à jour, des avions au vol et au départ. Qu'est-ce qu'il me veut ? Michel Galard ne se presse pas de le dire. On va en venir tout doux au souvenir. Dis donc, les ponts de Sedan. Ou bien, Hombourg. Tu te souviens de Hombourg? Le commandant un tel qui s'est tué à... Enfin, nous y étions. J'ai rencontré sa fille, elle est mariée. Ça ne rate pas. Glémon, l'as du 11-3. Tu sais, eh ben, il fait Buenos Aires. Dis donc, ce n'est plus le même homme. Parce qu'ils aiment aussi se rappeler les autres qui, comme eux, ont déserté. Jean ne répond pas. Il regarde Michel Galard et pense que lui non plus, il n'est pas le même. Bucking, ça, élégant jusqu'au bout des ongles. Mais serait-il encore capable de pousser sa gueulante à l'enterrement d'un camarade pour s'assurer qu'il est prêt à remettre ça le soir? Moi-même, en serais-je capable? Jean pense qu'il était à Villaroche le 3 avril 1953. Il a pris l'air quelques minutes après la mort de Rozanov, quelques secondes après l'avoir apprise. Il n'a rien dit. Il a fait son boulot le plus proprement du monde. Il a attendu le soir pour se saouler. Autrefois, la mort, ça se risquait ensemble, tous les pilotes à la fois dans le coup. Maintenant, la mort se risque seule. Le mépris a fait des pas de géant. Le mépris a la face froide, ivoire de la mort. Et c'est comme ça que j'ai su. Su quoi ? Se demande Jean. Il doit être question toujours de ce Glémon qui fait Buenos Aires. Alors comme moi, j'habite aussi Melun, je me suis dit, combien de temps que nous nous sommes vus ? Ça doit remonter à 46 ? Je n'étais pas encore mariée, non ? Je n'étais pas à Air France ? Non, j'y suis entrée après toi. Je fais le service postal Paris-Alger. On se suit dans la vie, dis donc. Je finirai peut-être un jour pilote d'essai. Le petit rire qui accompagne cette plaisanterie douteuse ne trouve pas d'écho. Jean est de glace. Il croit comprendre. Son ancien camarade souffre de n'avoir rien d'autre à lui offrir que le service postal Paris-Alger. S'il souffre, tant pis pour lui. On ne choisit pas d'être un facteur. De nuit, mon vieux, si tu crois que c'est drôle pour un homme marié, d'autant plus que j'ai une femme bizarre, une femme bien, mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que pour de bon, il croit m'attendrir ? Il glandouille le gars. Une femme froide, dit Michel Gaillard. Une femme bien, intelligente, honnête et tout ce que tu voudras, mais froide. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Jean se le demandait, ou peut-être non. De quoi aurait-il parlé ? On imagine bien que le service postal... Paris, Alger, de nuit, ce n'est pas un sujet de conversation très captivant. Lorsqu'on a été l'homme, en 1939, capable de se poser sur une piste allemande, pour le simple entendre les boches gueuler lorsqu'ils voyaient les cocardes françaises dans les feux de leurs projecteurs. L'homme que Michel a été, qu'il n'est plus. Ce n'est pas les cheveux grisonnants aux tempes, ceux de Jean qui bientôt vont blanchir aussi. Mais Jean doit faire effort pour se rappeler qu'il parle à un ancien frère d'armes, à un pilote comme lui. L'impression qu'on éprouve lorsqu'on revoit une jolie fille 20 ans après. Et la peine de Michel certainement est plus grande quand, par la fenêtre, il aperçoit la tour à l'autre bout du terrain, dressée comme une flèche. « Une cathédrale du ciel !» dit le commandant Rolla. Regardant la tour, lui, Jean, pensant aux bureaux de piste, aux ateliers, aux salles d'écoute, isolés dans l'aile gauche où il ne va presque jamais, mais dont pas un instant il ne cesse de se sentir propriétaire, avec une pensée plus tendre pour le dernier de ses pièges. Il répond enfin « Les femmes, tu sais... » « Mais je l'aime !» dit l'homme pitoyable. « Je voudrais la comprendre, qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas, un détail, tiens. Quand je rentre le matin, crevée, elle n'est pas là, jamais. Le matin, elle fait du cheval, tous les matins, avec ce vieux obro, Valmaison, un archiviste, tu connais ? Oh, j'en suis pas jaloux, il a au moins 80 ans, mais quoi ? C'est une occupation pour une jeune femme ? Une femme bien, jolie, je voudrais que tu la connaisses. Coquette aussi, mais j'aime ça, mon vieux, vraiment. » Je voudrais que tu viennes dîner un jour à la maison. Tu comprendrais tout de suite, toi, peut-être. Je me dis parfois qu'il faudrait pas grand-chose, peut-être. Si toi, son mari... Justement, quand tu vis tout le temps avec quelqu'un, tu sais plus. Qu'est-ce que tu veux ? Elle est jamais là. et soudain d'une voix éclatante « Tu peux bien me rendre ce service, nom de Dieu !» Gêné, Jean s'est levé. Debout devant la fenêtre, il tourne le dos à son ancien copain. Il a fort envie de gueuler, lui, de même. Mais s'il commence, il n'en finira plus. Il dira qu'il n'a que faire des femmes des autres. Il sera moins poli. Il dira qu'il y a trop de filles sur la terre disponibles. Il dira qu'il faut être le dernier des gougnafiers pour se poser tant de questions au sujet de sa femme, simplement pour s'être marié avec une femme froide qui goûte la compagnie des archivistes. Il dira qu'il est un homme et non pas une duègne espagnole et que... Il dira rien. Il n'a même pas envie de se mettre en colère. Eh bien, mon vieux, c'est cela, un de ces jours. Pas de cette semaine, non, mais... Bah, téléphone-moi. On arrangera ça pour bientôt. À son tour, le facteur se lève. Il a compris. Il regrette maintenant cette balade inutile. Le besoin de revoir un vieux copain ou quoi? Le besoin plutôt de se torturer en étudiant de près comment est fait un type qui n'a pas déserté, qui ne vieillit pas, qui ne se pose pas de vaines questions. Tu m'excuseras, mon vieux, j'ai un bidule à préparer. Oui, dit Michel, oui, je n'aurais pas dû venir t'embêter avec toutes ces histoires qui, après tout, ne regardent que moi. C'est naturel, dit Jean, si on ne pouvait pas tout dire à ses copains, à qui se confierait-on? Et gentiment, en le tenant par le bras, il met l'autre à la porte.